RFI 8h30 à Paris, 6h30 à Conakry et en temps universel. Et le journal avec vous, Paul Lonsin-Spinelli, le soulagement des proches de Moussa Dadis Camara et l'indignation des victimes du 28 septembre 2009 en Guinée.
Une réaction après l'annonce de la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara par Mamadi Doumbouya, c'était vendredi. L'ancien dictateur avait écopé d'une peine de 20 ans de prison en juillet dernier pour son rôle dans le massacre du stade de Conakry en septembre 2009 qui avait fait plus de 150 morts, témoignage à suivre dans ce journal. Plus de 50 morts dans les rangs de l'armée et des volontaires pour la défense de la patrie dans l'est du Burkina Faso dans une attaque terroriste dans la ville de Diapaga. La ville a également été pilonnée par des obus hier matin. Et puis notre dossier du matin sur RFI, consacré à ce documentaire pour mettre à l'honneur les dessinateurs de presse ougandais sous le régime d'Amin Dada dans les années 1970. Certains prennent la parole publiquement pour la première fois.
En Guinée, Moussa Dadis Camara aura finalement passé moins d'un an en prison.
Moins d'un an sur les 20 auxquels l'ancien dirigeant de 2008 à 2009 avait été condamné en juillet dernier pour crimes contre l'humanité, pour son rôle dans les exactions commises en septembre 2009 lors d'un rassemblement de l'opposition au grand stade de Conakry, lors duquel au moins 150 personnes avaient été tuées. Sa libération immédiate vendredi soir après l'annonce de la grâce présidentielle du général Mamadi Doumbouya a d'un côté choqué les victimes et leurs proches, et de l'autre rassurer les soutiens de l'ex-dictateur Mokhtar Ba.
Un samedi de joie dans la famille Camara à Conakry. Émotion également à Zérékoré, sa ville natale. Amadou Bari de l'Union citoyenne pour l'émergence de la Guinée, une organisation de la société civile proche des autorités, salue ce qu'il appelle un geste humanitaire.
Ce geste fort du président général Mamadi Doumbouya est un acte salutaire pour nous les acteurs de la société civile guinéenne, surtout qui se bat pour la réconciliation et l'unification du peuple de Guinée.
Ce magistrat qui a souhaité rester anonyme rappelle que Dadis Camara a été gracié, mais sa condamnation tient toujours tant qu'une amnistie n'est pas votée.
Qu'une personne condamnée a commis un crime grave, la loi donne le droit au président de la République de prendre une mesure de grâce pour dispenser de cette personne-là de l'exécution de la peine. Faut-il rappeler, la peine reste enregistrée dans son casier judiciaire et produit tous les effets juridiques. Seulement, la personne ne reste pas en prison pour purger la peine.
Pour Rafi Ousso, le leader du parti d'opposition PRP, le cas d'Adis Camara doit servir de leçon.
Je souhaite fortement que ça lui a servi d'exemple et qu'il sera un conseil du général Mamadi Doumbouya dans le sens de respecter ses engagements et l'achat de la transition.
Au sein de l'opposition, certains s'interrogent sur les motivations des autorités et leur volonté de s'attirer la sympathie de la Guinée forestière. La libération du capitaine Moussa Dadis Camara suscite également de l'inquiétude dans les rangs des victimes du 28 septembre. Nombre d'entre elles avaient témoigné à visage découvert. Mokhtar Ba, Conakry, RFI.
Cette grâce accordée à Moussa Dadis Camara, elle a été vécue comme une injustice par les familles des victimes. Mamadou Bailoba préside l'association des familles des disparus du 28 septembre 2009, AFADIS. Son propre père est porté disparu. Choqué, il espère qu'un recours existe encore. Écoutez.
Ça a été quand même une annonce surprise. Et nous estimons aujourd'hui que le décret de grâce du capitaine Moussa Dadis Camara est un affront vis-à-vis de la mémoire des victimes du 28 septembre 2009. On s'interroge pourquoi cette grâce présidentielle, ça a été vraiment une annonce surprise. Nous aurions souhaité que ceux-là qui sont incriminés, qui sont coupables dans cette affaire, vraiment arrivent à purger leur peine. Nous attendons à ce que le gouvernement puisse vraiment nous aider à bénéficier de ces réparations. Et par après, on va voir qu'est-ce qu'il faut à travers nos avocats. Est-ce qu'il y aura une possibilité d'explorer autres juridictions nationales ou internationales pour que nous puissions vraiment, disons, prendre position par rapport à cette grâce présidentielle.
Un témoignage de Mamadou Bailoba.
Une attaque terroriste meurtrière dans l'est du Burkina Faso vendredi.
Une cinquantaine de soldats et de volontaires pour la défense de la patrie ont été tués dans un assaut contre leur base militaire dans la ville de Diapaga. Récit signé Lisa Fabian.
Les assaillants sont arrivés à moto en grand nombre autour de 16 heures, rapporte la population. Ils ont encerclé la ville et ont commencé à tirer. Tout le monde s'est mis à l'abri, expliquent ces témoins qui décrivent une situation très tendue. Des tirs ont ensuite retenti près du camp militaire. Après un moment de résistance, les soldats ont dû l'abandonner. Les terroristes se sont servis dans les armes et les munitions. Après, ils ont mis le feu à ce qu'il restait, explique une source locale qui a pu visiter le site au lendemain de l'attaque. Le ratissage message qui a suivi a permis de retrouver les corps sans vie d'au moins 30 soldats. Les volontaires pour la défense de la patrie qui étaient en formation à l'intérieur du camp ont quant à eux perdu 22 de leurs camarades qui ont été inhumés dès ce samedi. Mais ce bilan pourrait encore s'alourdir car plusieurs soldats manquent toujours à l'appel et les recherches se poursuivent pour les retrouver. Des commerces, le siège d'une société cotonnière et la prison civile ont aussi été visités par les assaillants qui ont incendié certains bâtiments. Des tirs d'obus ont visé la ville dans la matinée du samedi, selon un habitant qui décrit des scènes de désolation à Diapaga.
Lisa Fabian, dans la lutte contre le djihadisme toujours. Le Niger se retire de la force multinationale mixte déployée dans le bassin du lac Tchad pour combattre Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. L'armée nigérienne l'a annoncé hier à la télévision d'État. Ce groupe, fondé en 1994, avait été réactivé en 2015 par le Niger. Donc le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Niamey justifie la fin de cette collaboration par la volonté de sécuriser les sites pétroliers du Nord. Le Niger et le Burkina Faso, qui avec leur allié malien ont annoncé hier la mise en place de taxes de 0,5% sur les produits importés de pays non membres de l'Alliance des États du Sahel. Une politique douanière de l'AES qui accompagne la sortie des trois pays de la CEDEAO actée en janvier. Autre mesure marquant cette séparation avec la communauté économique d'Afrique de l'Ouest, la mise en circulation de nouveaux passeports au sein de l'AES. Ces documents ont été officialisés fin janvier. Une façon de ressortir l'argument de la souveraineté nationale, formule régulièrement brandie pour accuser la France d'ingérence. Pourtant, c'est une entreprise française, Idemi, qui fabrique les passeports maliens de l'AES, c'est ce qu'avait révélé le magazine Jeune Afrique. Ces dernières années, pourtant, les autorités maliennes de transition avaient publiquement critiqué Idemia. David Bachet.
L'entreprise française Idemia, qui était chargée de collecter les données de recensement administratif RAVEC, avait été accusée de prendre en otage ces données. Ce qui avait officiellement justifié, en septembre 2023, le report des élections prévues en février 2024. Plus d'un an après, et malgré la récupération de ces données, aucune nouvelle date n'a été fixée. L'année précédente, la justice du Mali de transition avait convoqué Jean-Yves Le Drian, ancien ministre français de la Défense, puis des Affaires étrangères, et son fils Thomas, employé par Idemia, alors dénommé Oberture, pour des accusations d'atteinte aux biens publics. Les deux hommes ne s'étaient pas présentés. Malgré ces différends fortement médiatisés et qui avaient alimenté les accusations d'ingérence portées contre la France, Bamako n'a pas rompu le contrat conclu en 2015 avec Idemia pour la fabrication des passeports maliens. Olivier Charlane, porte-parole d'Idemia.
Les passeports maliens sont produits dans l'une des usines sécurisées du groupe, située donc au sein de l'Union européenne. Nous avons livré environ 25 000 passeports depuis le basculement fin janvier sous le nouveau design de l'AES. La production à venir dépend du besoin, dépend des demandes. Habituellement, nous livrons entre 12 000 et 16 000 passeports par mois environ.
L'entreprise française précise que le contrat en vigueur court jusque fin 2025 et qu'une éventuelle reconduction n'est pas envisagée à ce stade. Sollicité par RFI, le ministère malien des Affaires étrangères n'a pas commenté.
David Bachet.
Des irrégularités dans le fichier électoral dénoncé par le Front populaire ivoirien.
La formation de Pascal Affine-Guessant a estimé hier en conférence de presse que les dossiers de 70% des inscrits, soit 6 millions de personnes, étaient incomplets à l'approche de la prochaine présidentielle d'octobre. Le FPI demande donc un audit indépendant. La commission électorale indépendante, elle, rejette ces accusations. Le fichier électoral définitif sera publié fin juin.
Un crayon pour dénoncer dans l'ombre le régime d'Amin Dada.
Le monde discret de la caricature de presse ougandaise. C'est le thème exploré par le documentaire The Tongue Turns to the Aching Tooth, un proverbe anglais que l'on pourrait traduire en français par « appuyer là où ça fait mal », un film réalisé par le néerlandais Michel Van Oosterhout, le cinéaste qui a fait appel à Jimmy Spier Sentongo. C'est l'un des plus grands caricaturistes ougandais actuels qui est parti à la rencontre des dessinateurs de presse des années 1970 qui, pour certains, anonymes à l'époque, s'expriment sur leur métier pour la première fois, Florence Maurice.
Leurs dessins ont marqué la culture ougandaise, mais très peu connaissent leurs noms et leurs visages. Il a fallu plusieurs années à l'équipe du film pour retrouver les caricaturistes qui témoignent, Michel Van Oosterhout, le réalisateur.
Ils avaient peur pour leur sécurité. Même les personnes qui travaillaient dans leurs journaux que j'ai rencontrés, aucun n'a pu me donner leur nom. On m'a expliqué qu'ils déposaient simplement leurs dessins dans une boîte, repartaient, personne ne les rencontrait.
Parmi ces témoins retrouvés, JGSS, le doyen des caricaturistes ougandais, 102 ans, il se souvient comment est née sa vocation.
Nous étions en train d'applaudir le Kabaka, le roi, en visite, et j'ai repéré trois hommes avec des carnets et une caméra qui ne s'étaient pas agenouillés. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient dans la presse. Je me suis dit, ces gens sont libres, je veux faire comme eux.
Dans le documentaire, chacun témoigne sur sa relation au pouvoir et à la censure sous Emin Dada, entre terreur et chape de plomb.
On pouvait te tuer pour avoir parlé d'Idi Amin.
James Tumusime le sait bien, un de ses dessins lui a valu d'être traqué par les services de sécurité.
Sur le dessin, un homme entrait dans une boucherie et demandait une tête de cochon. Le vendeur répondait « Mais tu ne vois pas que je suis un humain, que je n'ai pas une tête de cochon ?» Or, la nuit précédente, le régime avait fait tuer l'archevêque et Amin était surnommé « le boucher ». Donc ses services lui ont dit « Dans ce dessin, il parle de toi ».
Recherché, James Tumusime s'est alors exilé avant de revenir en Ouganda pour continuer à dessiner.
J'ai arrêté de dessiner des cochons.
Pour contourner la censure, les caricaturistes qui témoignent racontent la façon dont ils évitaient les sujets politiques ou la religion, préférant alors aborder des questions de société. Les dessins évoqués dans ce documentaire constituent donc un témoignage précieux sur les mœurs de l'époque et notamment sur le statut des femmes. Un parfum nauséabond de misogynie régnait en effet à l'époque. C'est ce qu'explique Florence Brisset-Foucault. Elle est chercheuse, maître de conférences à l'université Paris 1 et également l'une des co-auteurs du documentaire.
On voit notamment beaucoup de personnages de prostituées ou d'épouses mécontentes ou de jeunes femmes qui s'habillent de manière provocante. Et ce que ça laisse transparaître, c'est la manière dont les comportements féminins étaient critiqués sous Idi Amin Dada, à la fois par l'État, mais aussi par la société, parce qu'il y a une des lois qui ont été passées par Idi Amin pendant la dictature qui est assez connue. C'était une loi qui interdisait, alors on dit souvent qu'il interdisait les mini-jupes. En fait, c'était pas seulement les mini-jupes qui étaient interdites, c'était aussi les mini-shorts, les pantalons moulants, les perruques, le maquillage trop ostentatoire. Et ce que l'on observe dans ces dessins, c'est que ces mesures étaient plutôt populaires, en fait, au sein de la société ougandaise, et que il y avait une forte critique sur des comportements des femmes, de femmes qui paraissaient trop libérées et trop provocateurs aux yeux de la société patriarcale en Ouganda à l'époque.
La chercheuse Florence Brisset-Foucault, interrogée par Florence Maurice pour le dossier de ce journal. Le lien du documentaire est disponible sur notre site RFI.fr.
Enfin, en football, la CAN des moins de 20 ans, c'est dans moins d'un mois.
Le tournoi commencera en effet le 27 avril en Égypte, pays choisi après le désistement in extremis en début de semaine de l'organisateur d'abord désigné, à savoir la Côte d'Ivoire, un changement de programme qui bouscule aussi les plans de préparation des équipes comme celui de la RDC. Les jeunes léopards sortaient d'un stage au Sénégal censé les acclimater à la région. Écoutez leur sélectionneur Guy Boukassa.
L'une des raisons pour lesquelles nous étions allés au Sénégal, c'est non seulement parce que c'est bien la nation tenante du titre de la catégorie, c'était aussi surtout pour se rapprocher du contexte de l'ancienne localisation. Le Sénégal, qui n'est pas loin de la Côte d'Ivoire, nous aurait donc permis de, surtout d'emmener les jeunes qui évoluent en Europe, de s'accoutumer au contexte africain en termes de terrain, en termes d'environnement, de météo et autres. Mais là, avec ce changement de pays hôte, on va devoir réorienter notre préparation vers une nation similaire en termes de climat et de météo à l'Égypte, qui va nous accueillir.
Le sélectionneur des jeunes léopards congolais Guy Boukassa, interrogé par Olga Massangou. La suite d'RFI Matin, tout de suite avec Julien Coquel-Rouhem.
Merci Paul Lonsin-Spinelli, à tout à l'heure, 6h44 en temps universel.